Vous écoutez, on lit pour vous.
L'entraide, c'est naturel. Un texte de Clara Villeneuve, paru le 19 juin 2025 dans le magazine Québec Science. Aider son prochain n'est pas seulement une leçon tirée de contes moralisateurs. C'est aussi un principe à la base de toute vie en groupe, qu'elle soit animale ou microbienne. Un inconnu gît au sol, inanimé. Alerté, un bon samaritain se rue vers lui et tente de le réanimer. Il lui ouvre la bouche, puis lui tire la langue pour libérer ses voies respiratoires. De longues minutes plus tard, la victime recommence à respirer. Victoire. Si vous croyez que cette scène décrit un moment cliché de téléroman, détrompez-vous. Il s'agit plutôt d'une récente observation faite chez des souris. Wenjian Son, chercheur postdoctoral à l'Université de la Californie du Sud, USC, a été le premier à observer ce comportement par accident. J'en ai immédiatement parlé à mes camarades. Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'un comportement pro-social, mais il y avait aussi d'autres possibilités, comme l'agressivité ou la curiosité, explique le chercheur. Pour y voir clair, l'équipe a mené des tests comportementaux avec une cage dans laquelle une souris test devait choisir entre aller vers une souris éveillée et une souris inconsciente. Résultat, les souris testées accordaient davantage de temps à l'individu inconscient qu'à celui qui était conscient. Et la souris anesthésiée avait tendance à se réveiller plus vite lorsqu'elle était stimulée par son compagnon, ajoute Guang Wei-Zhang, professeur de neurosciences à l'USC et co-signataire de l'étude. Le résultat, récemment publié dans la revue Science, laisse ainsi entendre qu'il existerait une réponse d'urgence instinctive chez les souris pour tenter de réanimer des partenaires inconscients, à croire que ces élans héroïques seraient programmés à même l'ADN. Les souris ne sont d'ailleurs pas les seules à avoir l'instinct d'aider un individu en détresse. En dehors des humains, cela a aussi été rapporté chez des dauphins, des éléphants et des chimpanzés. Outre sauver une vie, la nature foisonne d'exemples de coopération, c'est-à-dire de comportements qui bénéficient à autrui et qui ont évolué au moins partiellement en raison du bénéfice procuré à autrui, précise Stuart West, professeur en biologie évolutive à l'Université d'Oxford. En contre-exemple, l'éléphant, qui défèque, ne coopère pas avec un bousier puisque la production de bouse n'a pas évolué spécifiquement pour bénéficier à l'insecte. Tout de même, la coopération est omniprésente au sein du vivant de la bactérie E. coli aux gorilles en passant par les mangoustes et les abeilles. Certains bonobos, par exemple, peuvent partager leur nourriture avec des individus étrangers à leur clan. Des chauves-souris vampires régurgitent une partie de leur repas pour nourrir certaines congénères affamées. Les flamants roses viennent en aide à leurs amis en cas de querelle dans un groupe. Les corbeaux se prêtent main forte pour accomplir certaines tâches. Pourtant, quand on parle de l'évolution, on entend plutôt des expressions telles que « la loi de la jungle » et « la survie du plus apte » et même parfois « la survie du plus fort » qui poussent à croire que dans la nature, c'est chacun pour soi. Supposons que la sélection naturelle favorise les individus qui sont les meilleurs pour propager leurs gènes au sein de la génération suivante. Mais qu'aider un autre individu, c'est l'aider à propager ses gènes à lui. Pourquoi diable un tel comportement serait-il favorisé par l'évolution ? Résume le professeur Stuart West, professeur en biologie évolutive à l'Université d'Oxford. C'est le biologiste britannique William D. Hamilton qui a trouvé la solution à cet apparent paradoxe en 1964. En fait, cette question est basée sur une interprétation fautive, quoique répandue, de la théorie de l'évolution darwinienne. La carotte et surtout le bâton. Pour les interactions entre individus d'espèces différentes, la coopération devient souvent avantageuse, là aussi. Selon une synthèse publiée en 2019, celle-ci est le plus souvent assurée par des mécanismes de pénalité que subira le partenaire déserteur. Ainsi, les guêpes du figuier pollinisent les fleurs du figuier commun en échange d'un endroit sûr pour pondre leurs œufs. Même si la guêpe ne pollinise pas suffisamment de fleurs, le figuier réduit les ressources envoyées au fruit dans lequel elle a pondu. Dans certains cas, chaque espèce dépend même de l'autre pour sa survie. C'est le cas chez les légumineuses. Ce groupe de plantes, qui comprend entre autres le haricot, le soja, la luzerne et l'arachide, a développé une symbiose avec des bactéries du sol capables de transformer l'azote atmosphérique en nourriture pour la plante. En échange, la plante fournit oxygène et carbone aux bactéries. Grâce à celles qui ne remplissent pas leur part du marché, car la plante diminue les rations d'oxygène des bactéries qui fournissent moins d'azote. Voilà qui réduit les risques que ces dernières deviennent des parasites. Darwin incompris. Selon cette interprétation erronée, la sélection naturelle agirait au niveau de l'individu. Autrement dit, les individus d'une population seraient en compétition les uns avec les autres pour que leurs gènes se retrouvent en plus grande proportion dans la génération future. Or, il n'en est rien. La sélection naturelle n'agit pas au niveau de l'individu, mais au niveau du gène. Cette vision est joliment représentée par l'expression « gène égoïste » proposée par le biologiste Richard Dawkins en 1976. Ce sont donc les différentes versions des gènes existant dans une population qui sont en compétition les unes avec les autres pour leur place dans la génération suivante, pas les individus. Et un gène qui se comporte de sorte à augmenter sa transmission aura tendance à être favorisé par l'évolution. Ce que Hamilton a fait remarquer, c'est qu'un gène peut influer sur sa transmission à la génération suivante de deux façons. La première, c'est en modifiant le succès reproducteur de l'individu qui le porte. La seconde, c'est en modifiant le succès reproducteur d'autres individus qui portent ce même gène, explique Stuart West, qui a signé, entre autres, une publication dans la revue Nature, Écologie et Évolution sur le sujet en 2021. Et qui d'autre que nous-mêmes peut porter nos gènes? Notre parenté, au sens large. Peu importe d'où vient le gène, si une sœur ou des cousins le transmettent à notre place, ça marche aussi, pour ainsi dire. Une liane qui sacrifie sa vie pour sauver sa progéniture semble faire un geste extrême d'altruisme, mais ce comportement est en réalité le fruit d'un gène égoïste, favorisé par l'évolution, puisqu'en dictant à la liane de sauver sa progéniture, le gène assure ultimement sa propre survie. Il en va de même pour les insectes sociaux, comme les abeilles et les fourmis. En aidant leurs reines à se reproduire, les ouvrières stériles assurent indirectement la transmission de leurs gènes à la génération suivante, parce que leur reine, c'est soit leur mère, soit leur sœur. Et les souris secouristes dont il était question plus haut? Eh bien, elles ne font pas exception. L'équipe de l'USC a trouvé qu'elles avaient ce comportement de sauvetage seulement envers des individus de leur parenté. Pour les biologistes, il n'y a pas de doute. La seule explication pour les comportements altruistes, c'est qu'ils sont dirigés envers la parenté. Mais encore faut-il savoir reconnaître ses congénères. Vous écoutez « L'entraide, c'est naturel », un texte de Clara Villeneuve, paru le 19 juin 2025 dans le magazine Québec Science. L'effet aisselle. Justement, la sélection naturelle a favorisé cette capacité de reconnaissance qui permet aussi d'éviter la consanguinité et d'identifier les concurrents, soit les non-apparentés, comme cela est décrit dans un article de synthèse publié en 2024 dans Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics. Il existe ainsi plusieurs mécanismes pour distinguer la parenté de la non-parenté. L'un des plus répandus est l'auto-reconnaissance, c'est-à-dire la reconnaissance de ses propres traits chez les autres, des airs de famille qui peuvent aussi se manifester à l'échelle moléculaire lors d'interactions entre cellules ou tissus, par exemple chez les bactéries qui fusionnent, ou chez les plantes lorsqu'un grain de pollen est déposé sur un pistil. Dans certains cas, le contexte de l'interaction peut suffire à confirmer les liens. On peut penser à un oiseau qui choisirait la stratégie suivante, nourrir tous les individus dans mon nid. Ou toute femelle mammifère qui, au terme d'une longue période de gestation, met au monde son bébé, puis s'en occupe, disant que le contexte est sans équivoque, ce petit est le sien et il porte ses gènes. Dans d'autres cas, notamment chez les fourmis, les coquerelles ou les souris, il est possible d'identifier sa parenté en se fiant à son odeur, une capacité que l'on désigne à juste titre par l'expression d'effet aisselle, et qui a aussi été vérifiée chez les humains. Pouah. Pas si simple. Mais cette théorie de la parentèle est un peu réductrice si l'on pense aux sociétés humaines. N'y a-t-il aucun exemple d'altruisme désintéressé, c'est-à-dire non dirigé envers la parenté, chez Homo sapiens ? En vérité, beaucoup de comportements de coopération chez l'humain sont de type mutualiste, soutient Stuart West. En d'autres mots, on s'attend à un bénéfice en retour du genre « je te rends service maintenant, tu me rendras service plus tard ». Du gagnant-gagnant, en somme, même s'il faut attendre longtemps le retour d'ascenseur. De plus, nous avons beaucoup de mécanismes psychologiques ou même d'institutions judiciaires pour renforcer la coopération dans la société et pour assurer la réciprocité des comportements coopératifs, poursuit M. West. De la menace de la prison au désir de maintenir une bonne réputation, la coopération chez l'humain repose en grande partie sur des mécanismes contraignants qui assurent le bon fonctionnement des sociétés. Le sujet n'a toutefois pas fini d'occuper les scientifiques dont le professeur Martin Sorbeck et ses collègues du Pan Lab à l'Université Harvard. Depuis 2016, l'équipe mène un projet de recherche sur les bonobos dans la réserve de Kokolopori, au Congo. En étudiant les bonobos, nos plus proches parents avec les chimpanzés, elle espère en apprendre davantage sur l'évolution des comportements humains. Plusieurs découvertes ont émergé de ces observations. Parmi les plus récentes, certains bonobos partageraient leur nourriture avec des étrangers. On a trouvé que les individus qui coopéraient beaucoup à l'intérieur de leur groupe social avaient aussi tendance à coopérer avec des individus à l'extérieur de leur groupe. Comme quoi les grands coopérateurs peuvent maintenir des formes de coopération au-delà des frontières sociales, relate Martin Sorbeck. Partager ses victuailles avec un parfait inconnu pourrait donc être avantageux, à condition que l'inconnu en question ait lui aussi tendance à partager. Plus récemment encore, en 2025, les observations, combinées à des données chez deux autres populations de bonobos, ont révélé un autre aspect fascinant de la vie sociale de ces primates. La formation de coalitions entre femelles pour prendre le pouvoir sur les mâles. Il faut savoir que chez les bonobos, les femelles migrent d'un groupe à l'autre. Elles interagissent donc majoritairement avec des individus non parents, parfois même avec de parfaites inconnues. Les coalitions qu'elles forment seraient donc purement opportunistes. L'occasion parfaite de s'allier dans un but commun, bénéfique à toutes, faire tomber le patriarcat. Admettons. Coopération microbienne. Parmi les découvertes récentes dans le domaine, beaucoup de travail a été fait sur la coopération chez les micro-organismes, une notion qui aurait fait s'étouffer les microbiologistes il y a seulement 15 ans, écrit Stuart West dans son article. Entre autres exemples, des virus qui s'agrègent et produisent des protéines pour aider leurs semblables à déjouer les défenses immunitaires, ou encore des bactéries qui sécrètent des substances bénéfiques à la croissance de leurs voisines. En 2025, une découverte surprenante a amené le concept d'entraide encore plus loin, en montrant qu'elle peut exister après la mort. Certaines bactéries laisseraient leur contenu cellulaire en héritage à leur descendance. Un don de soi au sens propre. Cet improbable recyclage a été découvert par une équipe menée par Martin Kahn, professeur de biochimie à l'Université Durham, dont les travaux ont été publiés récemment dans Nature Communication. À la base du phénomène, un gène appelé LON et encodant une protéase, soit une enzyme capable de dégrader les protéines. Lorsque la bactérie est vivante, cette enzyme assure le contrôle de qualité en éliminant des protéines défectueuses. Nous avons montré que lorsqu'une bactérie meurt, la protéase LON est libérée et aide à découper les autres protéines en plus petits morceaux pour que les bactéries vivantes puissent s'en nourrir dévoile Martin Kahn. Autrement dit, les bactéries ont un gène qui assure leur propre décomposition, une sorte de coopération post-mortem où une bactérie s'offre en festin à ses voisines. Cela s'explique bien. Ses voisines ne sont nulles autres que ses clones, donc des individus possédant les mêmes gènes. La bactérie peut alors mourir en paix. Dans un monde où les conflits sont plus fréquents que les ententes, ne nous méprenons pas. Pour gagner, la coopération est souvent plus efficace que le chacun pour soi. Elle est au cœur même de notre existence, puisque c'est elle qui a permis aux cellules simples de s'associer pour former des cellules complexes et aux organismes unicellulaires de s'associer pour former des organismes pluricellulaires. La vraie loi de la jungle, c'est que ceux qui coopèrent finissent toujours par gagner. C'était « L'entraide, c'est naturel », un texte de Clara Villeneuve paru le 19 juin 2025 dans le magazine Québec Science.
Caulfield, Suzuki et l'amitié masculine. Un texte de Stéphane Laporte, paru le 12 avril 2026 dans la presse. On est tous là, devant notre télé, à espérer. Mise en jeu en zone du Canadien, à la droite de Dobbs, remportée par Suzuki. Hodson s'empare du disque, contourne son filet et le remet à Slavkovski. Slavkovski, le dos tourné, fait dériver le disque vers Suzuki. Le capitaine fonce à toute vitesse en plein centre de la patinoire. Il entre dans le territoire du Lightning, passe la rondelle sur sa droite à Caulfield. Caulfield lance et compte son 50e but de la saison. Le premier joueur du Canadien à réussir l'exploit en 36 ans. Le plafond du Centre Bell lève. Suzuki bondit dans les airs et enlace Caulfield. C'est plus qu'une simple étreinte de célébration. C'est l'étreinte de deux meilleurs amis sur la glace et dans la vie. C'est l'étreinte de deux hommes qui se rendent meilleurs. C'est pas « heated rivalry », c'est « chaleureuse amitié ». Leur bromance débute il y a 7 ans, à l'été 2019. Le Canadien vient de faire de Caulfield le 15e choix de la séance de repêchage de la Ligue nationale. Les deux jeunes hommes se croisent dans les coulisses à Vancouver. Suzuki, lui, est déjà membre du tricolore depuis seulement 1 an, lorsqu'il a été échangé de Vegas à Montréal. Ça clique tout de suite entre eux. C'est lors du camp de développement, quelques semaines plus tard, qu'ils développent leur complicité. Cole, l'extraverti, Nick, l'introverti. Cole, l'exubérant, Nick, le réfléchi. Cole, le comique, Nick, le ricaneux. Puis Cole, l'Américain, poursuit son chemin à l'Université du Wisconsin. Nick, le Canadien, commence sa première saison avec le Canadien. Ils se retrouvent lors des séries éliminatoires de 2021, en pleine pandémie, et forment une bulle éclatante. Nick, le passeur, Cole, le marqueur. Parfois, ils inversent les rôles. Exemple, leur but d'anthologie en prolongation contre les Maple Leafs. Caulfield intercepte une passe à sa ligne bleue. Il s'échappe à 2-0 avec son ami. De Caulfield à Suzuki, de Suzuki à Caulfield. À toi, à moi, à toi. Les deux veulent que ce soit l'autre qui marque. Après toi, non, non, après toi. Ce sera finalement de Caulfield à Suzuki. Et voilà, le gardien déjoué. Bye bye, Toronto. Un nouveau duo de super-héros est né. Batman Suzuki et Robin Caulfield. Depuis, ils ne se quittent plus. On les voit partout sur les réseaux sociaux et pour une fois, ce n'est pas faux. Ensemble en pédalo, ensemble à l'assaut, dans la grande roue, ils se prennent en photo. Au mariage du capitaine avec sa belle Caitlin, c'est Cole qui est son garçon d'honneur. C'est sûrement l'amitié masculine la plus exposée au Québec. Et ça fait du bien, parce que les modèles comme eux ne sont pas nombreux. Selon plusieurs études, l'amitié masculine est en déclin dans le monde. En 1990, 55% des hommes avaient 6 chums de gars. En 2021, ils ne sont plus que 27%. Pire, en 1990, 3% des hommes n'avaient aucun ami proche. En 2021, ils sont 15%. Chez les jeunes de moins de 30 ans, ça monte à 28%. Les hommes ayant moins tendance à s'exprimer, à se confier, à socialiser, l'écran devient l'endroit parfait pour s'isoler. Les boys aiment s'arranger tout seuls. L'ordinateur et le téléphone deviennent les objets de leur solitude. Espérons que les images de la franche camaraderie entre Nick et Cole apparaîtront dans leurs algorithmes et leur donneront envie de sortir de chez eux pour se faire des amis en vrai. Au gym, au bistrot, au parc à chiens, à n'importe quel endroit où l'on se donne la main plutôt que de se sweeper. Sa crie dans le salon a réveillé Maurice Richard. Mes invités sont au comble du bonheur. Enfin, Caulfield l'a marqué son 50e. Enfin! C'est une façon de parler. Il n'y avait pas de quoi s'impatienter, puisqu'il est tout de même le 2e joueur de toute la Ligue à atteindre ce cap cette année. Et pour 99% des autres, il n'y aura jamais de « enfin ». Assis à côté de moi, il y a mes amis, Ronald et André, mes camarades du cégep Marguerite Bourgeois. Depuis qu'on se connaît, on a vu la fleur compter 56 buts en 1977, 60 buts en 1978, 52 buts en 1979, 50 buts en 1980. Larouche en a compté 50 aussi la même année. Puis Richer en a marqué 50 en 1988 et 51 en 1990. 36 ans plus tard, on est toujours ensemble pour se taper dans les mains en regardant le numéro 13 entrer dans l'histoire. En 2027, ça nous fera 50 ans d'amitié. Et vous pouvez être certain qu'on le sera encore. Même si on ne verra pas ça dans aucun livre des records, c'est quand même une belle réussite, notre 50 à nous. Bien sûr, on ne se fréquente pas aussi souvent qu'au temps de nos cours de littérature avec M. Parent, mais on a une pensée les uns pour les autres toutes les semaines. On s'envoie des liens, des trouvailles sur les Beatles, des vieux sketchs de Paul et Paul. On se félicite et on se console. Et quand arrive un événement important, on répond présent. Comme un match du Canadien pour le premier rang. Merci Cole et Nick d'avoir rendu cette soirée inoubliable. L'inoubliable l'est encore plus quand on est entre amis. Signé, amicalement vôtre, Stéphane. C'était Caulfield, Suzuki et l'amitié masculine. Un texte de Stéphane Laporte paru le 12 avril 2026 dans la presse.
Ce qu'il faut savoir sur la testostérone. Un texte de Marie-Ève Fournier paru le 7 mars 2026 dans La Presse. La testostérone est souvent associée à la virilité, à la masculinité et à la pilosité. Son rôle dans le corps, tant chez l'homme que chez la femme, est cependant beaucoup plus vaste. Cynthia Maillot, naturopathe agréée, répond à quelques questions populaires pour vous permettre de mieux comprendre cette hormone essentielle. Qu'est-ce que la testostérone? La testostérone est une hormone sexuelle synthétisée à partir du cholestérol au terme d'un long processus en plusieurs étapes. Résume Cynthia Maillot. Le cholestérol est d'abord transformé en prégnénolone, puis en progestérone, en androsténedione et enfin en testostérone. Cette dernière étape se déroule principalement dans les testicules, les ovaires et les glandes surrénales. À quoi sert-elle précisément? La testostérone fait partie du groupe des hormones dites androgènes. Celle-ci influence plusieurs systèmes métaboliques, c'est-à-dire la manière dont le corps utilise l'énergie, renouvelle ses tissus et régule sa composition de muscles et de graisse. Plus particulièrement, la testostérone joue un rôle important sur la masse musculaire, la libido, le niveau global d'énergie et les performances, qu'elles soient athlétiques ou autres, résume Madame Maillot. Les effets bénéfiques de la testostérone dépendent aussi de niveaux adéquats d'autres hormones telles que l'œstrogène, le cortisol et l'insuline. C'est un savant jeu d'équilibre à atteindre, ajoute la naturopathe. Quelles sont les habitudes de vie qui favorisent sa production? Il ne s'agit pas d'une chose en particulier, mais plutôt d'adopter de saines habitudes de vie globales, résume Cynthia Maillot. La pratique régulière d'activité physique, une alimentation équilibrée et riche en protéines, un sommeil de qualité, une bonne gestion du stress. Tout ça crée un contexte favorable à la production de testostérone. Bien dormir s'avère particulièrement important. La production de testostérone se fait en cycle et en grande partie pendant le sommeil profond. Des éveils fréquents ou un horaire irrégulier peuvent perturber ce processus. Comment la testostérone sert-elle l'activité physique? La plupart des formes d'activité physique peuvent bénéficier de la testostérone. Sans agir directement comme source de force, d'endurance ou de vitesse, cette hormone aide cependant le corps à s'adapter à l'effort. Entre autres, la testostérone permet au système nerveux de mieux activer les muscles afin de générer davantage de puissance et d'exécuter des mouvements de qualité. Elle contribue aussi à la récupération et à la régénération des tissus, deux aspects essentiels au développement de la masse musculaire. Ce n'est pas pour rien que les sports organisés sont souvent genrés. Les hommes produisent environ 10 fois plus de testostérone que les femmes, ce qui leur procure un avantage majeur d'un point de vue athlétique, nous rappelle Cynthia Maillot. Quels sont les symptômes qui peuvent indiquer un manque de testostérone? Chez l'homme, la production de testostérone peut diminuer progressivement et de façon naturelle dès la trentaine, un phénomène désigné comme l'andropause. Contrairement à la ménopause, qui entraîne des changements hormonaux plutôt rapides, cette transition est généralement graduelle, sur plusieurs années. C'est souvent dans la cinquantaine que les symptômes deviennent plus perceptibles. Quand la testostérone est moins présente, on peut ressentir de la fatigue, une diminution d'énergie généralisée, une perte de libido et parfois des chaleurs et des changements cognitifs, comme des problèmes de concentration ou une baisse de motivation, résume Mme Maillot. C'était tout ce qu'il faut savoir sur la testostérone. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 7 mars 2026 dans La Presse.